Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est vrai que après ces trois interventions, je ne voudrais pas non plus jouer les anciens combattants, puisque vous êtes depuis 1917, donc et rabâcher un petit peu toujours la même chose. Je vais essayer de trouver un angle d'attaque, on va dire, un petit peu différent. Puisque le titre, on m'a dit « Comment préserver l'espace naturel et agricole du territoire en assurant un développement rural et urbain équilibré. » Bon, voilà un tas de chapitres. Simplement, comme on fait dire, Philippe l'a dit, mais je crois qu'il faut bien l'avoir en tête, c'est l'état de fragilité de notre territoire dans les années 50-60. Il faut savoir de où on vient. Je me souviens que l'étudiant en géographie, prof de géo, on nous expliquait que la Vénois, c'était la zone où il y avait la plus petite exploitation agricole de toute la région Nord-Pas-de-Calais, on l'oubliait, mais que dans le même temps, quand je m'occupais au département d'agriculture dans les années 85, on avait un GDS, le plan de défense sanitaire, qui montrait que l'état sanitaire du troupeau de la Vénois était le plus mauvais de toute la région Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez, c'est deux choses qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire de d'où on vient. Et d'où on vient. Et qu'on avait aussi la moyenne d'âge la plus élevée de toute la région Nord-Pas-de-Calais. La moyenne d'âge des agriculteurs est la plus élevée. Et vous voyez, quelle révolution! Parce que du coup, il y a eu une transition terrible, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a les agriculteurs les plus jeunes, qui ont été souvent bien formés, et qui nous a permis d'avoir, je ne veux pas faire de la brosse à revenir, puisque Damien est là, mais une élite, entre guillemets, de représentants professionnels, président de la Chambre d'agriculture était originaire de la Vénois, il y a eu Philippe, là il y a Damien, il y a, j'ai oublié son prénom, donc ton président...
Christophe.
Ouais, Christophe. C'est ça, Christophe. Bon, des gaillards qui en veulent, qui gèrent bien leur exploitation, et qui en même temps font bouger les choses. Et il faut le soigner. Comment, finalement, en une quarantaine d'années, les choses ont complètement évolué. Et quand je vois, par exemple, comment Villeparc, je peux dire que les dirigeants agricoles, avec quelques hésitations, quelques difficultés parfois, mais ont participé à la création et continuent de participer à la vie du parc. Je connais d'autres régions, je peux vous dire, le Morvan ou ailleurs, où ce n'est pas du tout le cas, ou plutôt il y a eu quelques émeutes contre les locaux du parc, du Morvan, etc., etc. Ici, ça se passe de manière paisible et constructive. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Alors, c'est à partir de là que est né effectivement le projet de parc. Le premier label, c'est 98. Sauf qu'en réalité, on a mis presque 10 ans dans l'association de préfiguration pour le créer. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, on a été financé par le département et par la région sans avoir le label. Donc, quand on dit 98, en réalité, on devrait dire 90. Et ça veut dire que il y a des élus, il y a des responsables agricoles qui ont accepté de faire ce projet. Ça n'a pas été facile, puisqu'il a fallu faire délibérer toutes les communes. J'ai le souvenir, tant pis si c'est un peu ancien combattant, mais la commune de Trélan a délibéré trois fois pour pouvoir adhérer au parc. Aujourd'hui, le maire de Trélan est le premier défenseur du parc, mais à l'époque, premier refus, deuxième refus, et puis la troisième fois, il a fini par accepter, et il a surtout après réclamé le congrès national des parcs à Trélan. Vous voyez? Bon, donc je pense qu'il faut regarder les choses de manière positive, mais il y avait un projet fédérateur qui a mobilisé l'ensemble de à la fois de la population, mais surtout des élus. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une charte. Alors, la difficulté de l'exercice, parce que, bon, je veux dire, tout va bien, mais enfin, il y a quand même toujours des difficultés. La charte, hein, sont les orientations opérationnelles, hein, bon, du territoire. Hein, tout ça a été renouvelé, puisqu'on est à la deuxième charte, hein, avec donc un nouveau label en 2010, qui devrait durer, donc, la nouvelle charte 2010. L'ancienne loi, c'était 2022. Il y a un nouveau texte qui vient de sortir, ce sera donc 2025, puisque les chartes, hein, vont durer 15 ans. Mais je pense que ça a quand même permis la mobilisation par défense du paysage, effectivement. Hein. C'est quand même le paysage qui nous a permis d'avoir le label parc. Hein. Bon, il n'y avait pas de bocage, il n'y aurait jamais eu de label parc, hein, pour le territoire. Donc c'est quand même un élément, je pense, décisif. Sauf que le parc, ce n'est pas seulement la biodiversité, c'est aussi l'animation économique, sociale et culturelle, mais en n'oubliant jamais la dimension essentielle de défense du paysage. Bon, ça c'est, je crois, un outil important, et maintenant que je suis président, je vois bien que dans la transition, le nouveau président, ben, il s'est approprié la charte du parc, et qu'il est content de défendre le parc. Et je pense que c'est énorme. Hein, au-delà des clivages politiques, ça veut dire que c'est une institution qui est reconnue par tous, hein, et qui n'est plus un débat polémique, hein, entre les uns et les autres. Et ça, je tenais aussi à le souligner. Deuxième élément, c'est le SCOT. Bon, ça a été aussi pas évident, et je voudrais rappeler, pour bien voir d'où on vient, ce que le premier avant projet de SCOT, c'était le SCOT de la vallée de la Sambre. Hein, c'est eux, hein, qui ont lancé l'idée un jour, dans les rues du Nord, SCOT de la vallée de la Sambre. Hein, bon, ça m'a fait bondir. Ben, il a fallu ramer pour dire non, mais attendez, un SCOT, c'est une relation entre l'urbain et le rural. Et que ça serait complètement idiot de faire un SCOT de l'agglo de Maubeuge sans se préoccuper, entre guillemets, l'arrière-pays rural. On y est arrivé après moult négociations politiques, c'est vrai. Bon. On a finalement un SCOT d'arrondissement. Et je pense que c'est vraiment le niveau qu'il fallait mettre en œuvre pour avoir quelque chose qui a de la cohérence dans la réflexion d'aménagement du territoire. Donc c'est un outil de planification. Bon, non, c'est pas un fleuve tranquille, hein, puisqu'il n'est toujours pas approuvé, le SCOT. Hein. On est à la deuxième mouture, et on a appris il y a peu de jours, quelques semaines, que il se faisait encore rétoquer. Alors, on me dit, président, vous avez côté de commune, mais tu leur as même l'info, hein, qu'ils sont en train de négocier avec le sous-préfet. Normalement, pour la fin de l'année, on devrait en faire nos scots. Ce qui veut dire que c'est pas évident, quoi. Ça veut dire quoi, hein? C'est que dès qu'on commence à parler aménagement du territoire, contrainte foncière, contrainte d'éléments naturels. Bon, alors, très bien. Sauf que l'agriculteur nous dit non, nous c'est défense des zones agricoles. Hein? Bon, parce qu'on n'a pas, on n'est pas dans le même règlement. Enfin, les plus ou moins écolos disent non, mais c'est des zones naturelles qu'il faut défendre. Donc il faut trancher, quoi. Hein? C'est un débat parfois difficile. Hein? Bon. Et les orientations, c'est aussi, là où les débats ont été rudes, on va dire, hein, c'est-à-dire franc et loyal, hein? Bon, ça n'a pas été du tout. Sur les zones commerciales, hein, où chaque maire dit « Ah non, il faut défendre mon centre-ville », et il se dépêche d'aller voir Leclerc, d'aller voir Auchan, d'aller voir les grands groupes, hein, j'en connais, on ne donnera pas de nom, par charité chrétienne, d'où la contradiction quand même, hein, d'où la contradiction. Et moi-même, en tant qu'ancien maire bouquénois, je le dis, il faut pas avoir honte de le dire, de toute façon, il faut assumer, même si vous estimez que j'ai fait des conneries. Mais il y a une zone commerciale qui s'est créée, hein, monsieur Poncelet, je me souviens à quelques réunions de la CDAC, on s'est retrouvés, on s'est frotté pas mal. Bon, sauf que, quand on vous dit, ah ben si vous le faites pas sur le chêne, ah ben je vais aller en Saval, hein, il y a du terrain en Saval, hein, au Villers-Paul. Bon, alors évidemment, après, vous courbez les chines, il vaut mieux que ça soit dans ma commune que dans la commune du voisin. Surtout qu'à l'époque, il y avait la taxe professionnelle. Mais, après, il y a l'intégration paysagère des zones commerciales. Entre celle du Quénois, celle de Fourmi et autres, hein, on n'est pas certainement les meilleurs en termes d'entrée de ville. Hein. Bon, mais ça veut dire qu'on est dans le dur, hein, et que parfois c'est difficile de trancher entre la volonté de donner de l'attractivité économique, hein, quand vous savez que 70% de vos habitants dans le territoire du pays Quercita vont faire leur course à Valenciennes, vous dites, merde, ce serait quand même bien qu'ils fassent leur course plutôt au Quénois, hein, qu'à Valenciennes. Mais Valenciennes, ils continuent, par exemple, hein, la semaine dernière, j'ai une grande photo, ils vont rénover ce qu'on appelait le petit Auchamp, hein, qui se trouve là, sur l'avenue Pompidou. Oh là là, quel beau bâtiment, hein. Quand je vois les travaux énormes qui ont été faits sur l'autre Auchamp, hein, en partant vers la forêt de Saint-Amand, et l'argent que la communauté d'agglos de Valenciennes y a mis, c'est pour bien défendre le Grand Auchan et toute la zone commerciale qui se trouve là, quoi. Bon, donc c'est ça aussi, hein, je veux dire, ok, il faut défendre les centres-villes, etc., et dans le même temps, on est coincé aussi par, je ne vais pas donner d'exemple récent pour la ville du terrain, mais c'est parfois difficile, et c'est vrai que dans le même temps, les hyper, on en fait quand même gros efforts en architecture, hein, pour la bonne intégration des choses. Mais c'est un questionnement fort. Et puis après, le gros débat lourd qu'on a eu au SCOT, hein, c'est, entre guillemets, pour résumer, combien de maisons à l'hectare, hein. Bon, entre 10, 20, 30, 40. Hein, en gros, le chiffre était là. Hein. Les débats sont rugueux. Hein, parce que selon que vous habitez dans un petit village, selon que vous habitez dans un Boursan, Bavel, Quénois, Landrecy, etc., ou que vous habitez à Maubeuge, les conditions ne sont pas les mêmes. Hein. Et lorsque dans une commune rurale, vous dites, ah ben, vous allez devoir mettre 20 ou 30 logements à l'hectare, hein, bon, c'est un questionnement lourd, quoi. Hein. Pas de faire des grands discours généralistes. Après, quand on est dans le dur, c'est ça la question. C'est combien, hein, de maisons à l'hectare dans le règlement du SCOT. Alors, on est arrivé à un texte, comment je vais vous dire ça poliment, hein, très, très général, hein, qui apparemment met tout le monde d'accord, mais après, lorsqu'on déposera les permis, il me semble qu'il y aura quelques grincements dedans. Hein. Bon. Mais le SCOT, il est là, c'est-à-dire, il nous dit densification, oui, c'est vrai, hein. Mais, allez, mais ça pose des bords, donc on pense le dire quand même, hein. Parce que vous voyez la face, quoi. Quand vous, tel ou tel membre, des classes moyennes, dit, ah, ben la Ténois, c'est magnifique, etc., je vais me faire construire une maison à Guissigny, à Potel, à Villeroy, etc., si vous leur dites c'est pour 3 heures, je ne sais pas si ils vont être d'accord, hein, pour une densité aussi forte. Hein. Bon, et puis les habitudes, c'est évidemment plutôt 10 arbres, 20 arbres. Alors c'est trop, mais il faut trouver juste équilibre pour garder de l'attractivité et que les gens, effectivement, ils viennent bâtir sur dans votre village. Quoi. Hein. Bon. Et les débats au niveau du SCOT là-dessus, hein, c'est là-dessus qu'on s'est fait étoquer en fait. Hein. L'État exige, la région exige une densification beaucoup, beaucoup plus forte que celle qui est souvent souhaitée par les élus et par les traditions. Surtout qu'après, moi, je ne sais pas ce que Philippe en pense, mais quand on regarde l'histoire de la Vénois, c'est quand même. Même si au départ ça n'a pas été ça, c'est de l'habitat linéaire dispersé. Hein? Bon. Alors, ok, quand vous arrivez dans le Cambrésis, il n'y a pas de problème. Hein? C'est des villages tas. Bon, on va pas aller habiter dans la campagne, c'est clair. Hein? Mais quand vous arrivez dans le Cambrésis, vous faites comment, hein? Tu as parlé de ton exemple d'habitat linéaire dispersé le long des voies départementales. Moi, je me souviens, quand tu arrives en 77, on avait un poste qui venait d'être approuvé, et il me mettait, hein, écoute bien pour ceux qui connaissent, de la construction du Quénois jusqu'à Ruel. Jusqu'à Ruel, c'est-à-dire plus de 2 km, 3 km hein, de construction. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à Potel, hein, à Jolimé, c'est ce qui s'est passé à Bilereau. Hein, Bilereau dit « Ah, ouais, mon population a augmenté. » Mais en réalité, hein, c'était, hein, on a construit tout mon départemental, mais c'est la même chose à Kissigny ou autre. Quoi. Et aujourd'hui, quand on dit à ces mêmes maires « Attendez, il faudra faire un aménagement sur une parcelle de 1 hectare, 2 hectares, hein, et qu'il faudra financer la voirie », alors là, c'est notre paire de manches. Hein, et pourtant, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais alors, avec quels moyens financiers, c'est peut-être plus comment, possible à l'échelle même de la commune. C'est-à-dire qu'il faut arriver à financer hein, des espaces à viabiliser à l'échelle intercommunale. Sinon, lotissements communaux, ça existe encore. Je te donne des exemples de villages où ils sont en train de faire un lotissement communal. Hein. Mais c'est compliqué. Est difficile, quoi. Mais c'est souvent, enfin, c'est la seule solution, en fait. Hein, la seule vraie solution. Mais ça ne se fait pas quand même du jour au lendemain. Bon, il reste qu'après, le SCOT, c'est pas un super PLU, PLUI. Hein, et parfois, on se dit, est-ce que le SCOT n'est pas trop contraignant par rapport à chaque réflexion sur les PLUI qui commence hein, bon. Après, ce qui, je pense que pour, par rapport au paysage et toutes les réflexions qu'on a pu faire, il nous reste encore une amélioration de la connaissance qu'on a de la biodiversité dans notre territoire. On a, avec le parc, hein, créé l'équipe technique des paysages, avec bah, le CLIEU, hein, je pense que c'est vraiment bien. Le problème, après, c'est de le faire passer dans la tête des familles, hein, avec les 7 entités paysagères. Là, on va commencer l'atlas pour la biodiversité communale. Hein. Il y a des financements, il y a eu un appel à projet, et ça, je pense que c'est très bien. Il y a toutes les opérations de Natura 2000, hein, les 3 opérations de Natura 2000, et on a eu la participation des agriculteurs, des élus. Je peux vous dire, pour avoir quelques connaissances entre eux, en tant que vice-président de la Fédération des Parcs, ça ne peut pas passer. Hein, aussi bien ailleurs. Hein. Mais si ça a pu bien se passer, Natura 2000, c'est bien parce qu'il y a eu le soutien de l'ingénierie du parc. Hein, et que, à force de conviction des élus, ça a entraîné, hein, et on a réussi le challenge. Quoi, hein. Je tiens à le souligner parce que je sais qu'ailleurs, hein, ça n'a pas toujours été le cas. Il reste que
2 minutes.
Allez, bon, il nous faut défendre quand même toutes les zones humides, hein, les 2000 hectares de zones humides. Waouh, c'est dur quand même ça, c'est très dur. Et quelle est la relation entre zones humides et agriculteurs? Il y a des aides aujourd'hui aux agriculteurs qui sont à planter sur les zones humides. Là aussi, le parc intervient pour faire en sorte qu'on arrive à maintenir une agriculture dans les zones humides, mais respectueuse de cet environnement. Bon, je passe rapidement puisque on me dit que le temps est limité, mais je rappelle le plan bocage, hein, bon, avec la valorisation en filière bois énergie et les MAE montés par le parc, avec aussi l'agriculture bio. Je voudrais dire simplement sur le plan bocage. Hein, est-ce qu'on a gagné? Je n'en suis pas sûr. Hein. Je viens encore de faire la route de Quénois et Sauvage. Je vois ce qui se passe entre Maroual et Avène. Waouh! Il y a quand même quelques kilomètres de haies qui sont encore partis. Hein. Et on est devant le débat 1000 fois répété. Est-ce qu'on est dans la discussion et la discussion ouverte avec les agriculteurs, hein, ou est-ce qu'il faut arriver à des règlements de contraintes, hein, vous n'avez pas le droit. Normalement, le texte est vous n'avez pas le droit, sauf que la réalité n'est pas toujours celle-là. Quoi. En plus, si jamais vous avez un agriculteur belge qui débarque, hein, et qui reprend en sous-location pour faire des patates,
des dizaines et des dizaines d'hectares, en un week-end, ils vous font en l'air des kilomètres de haies, et puis basta, quoi. Donc, le débat sur la haie, il reste ouvert, hein, pour le parc, pour tout le monde. Hein. Je comprends les agriculteurs dans leur logique, ouais, pouvoir redessiner un bocage à mailles plus large. Hein. Il y a des efforts qui sont faits dans des nouvelles plantations, c'est clair. Hein. Mais le débat, il est encore devant nous. Quoi. Sinon, on va avoir des ruissellements, de l'érosion des sols, des limons qui arrivent dans la rivière, etc. etc. Donc c'est un débat ouvert qu'il faut affronter avec les responsables agricoles, et je sais qu'ils sont prêts à l'affronter, mais en plus, quand le lait ne rapporte pas, qu'est-ce qu'on fait? On retourne les pâtures, et puis on fait des céréales ou autre chose, et ça contribue à la disparition des... sur lequel je passe, mais l'effort qu'on a fait sur les plantations, hein, mais qui pose là aussi un débat. Enfin, regardez, sur la forêt domaniale, le Mormal, est-ce qu'on continue les plans de. Comment on appelle ça? De coupe rase, hein, telles qu'elles sont encore faites. Hein. C'est un débat de fond, ça. Hein. Hier, j'avais encore un débat. C'est l'administration de l'agence de l'eau, ou la représentante de la DDA, non mais la coupe rase, c'est nécessaire pour régénérer la forêt. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autre méthode? Puis ensuite, qu'est-ce qu'on replante? Parce qu'avec les changements climatiques, je peux vous dire qu'il y a des espèces de chênes qui ne supporteront pas dans les décennies qui arrivent les phénomènes de sécheresse extrême. Hein. C'est un grand débat et
les scientifiques.
Ouais. Bon, d'accord. Les scientifiques. Bon, d'accord. Voilà. Il y a les grands aménagements. Allez, dernier point quand même sur les carrières. Hein. Bon, quand on a autant de carrières sur le territoire du parc, hein, on essaie de négocier avec les propriétaires des carrières. On a un plan carrière qui est en gestation. Mais si c'est pour mettre des moellons avec des sapins maigrelets qui pousseront jamais, on pose des questions. On essaie d'avoir leur collaboration et il le faut. Hein. C'est une activité économique importante, il n'y a pas question de dire dans un parc il n'y a pas de carrière. Quoi. Mais honnêtement, ça nous pose là aussi des problèmes. Et le dernier point sur lequel je vais passer, c'est la question de l'eau, hein, des rivières et des champs captants. On a fait quand même beaucoup de progrès dans ce domaine, dans la gestion hein, du curage doux des rivières. Hein. Bon, on ne peut pas y échapper, mais bon, allez, hein, de temps en temps, il y a des coups de godet hein, qui se perdent pour curer telle ou telle rivière et foutre en l'air les frayères, ça arrive. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut une vigilance permanente. Avec une difficulté, on nous dit continuité écologique, mais tu as parlé des 200 moulins, hein, tout à l'heure, on fait comment par rapport à ces moulins hein. Bon, dernier exemple que j'ai la semaine dernière, on me demande une intervention pour le moulin de Marouel, hein, parce qu'il faut rétablir la continuité écologique, puis en plus le moulin de Marouel, il peut produire de l'électricité. Or la loi, elle dit c'est là ou c'est l'autre, tu as des subventions, si c'est de l'électricité, terminé hein. Bon, et si vous voulez faire les deux, ce n'est pas possible. Donc, il y a des possibilités de dérogation, mais pour montrer que dans le détail, dans le concret des choses, ben, on est confronté parfois à un certain nombre de difficultés. Je ne parlerai pas du sage, du papy qui est en cours. Hein, et c'est quand même un point aussi positif, hein, c'est qu'on est dans la phase concrète. On pourra financer des actions contre les inondations avec le fonds Barnier en particulier. Et là, c'est un dossier qui avance bien. Dernier point en conclusion, c'est comment on sensibilise nos habitants à la préservation de ces milieux naturels et des paysages. C'est OK, il faut préserver le bocage, mais le terrain qui est là, je voudrais bien pour construire une maison, et on commence évidemment par enlever les haies hein, qui étaient. Autour du terrain, hein, et ça ne les gêne pas du tout. Mais le lendemain, un an après, ils viennent râler parce qu'à côté, on a supprimé les haies, Hein, parce qu'à partir du moment où je suis installé, hein, il ne faut plus que ça bouge. Bon. Donc, on gère ça, toutes ces contradictions, mais je reste persuadé quand même qu'on a les outils aujourd'hui pour préserver le paysage qui est le nôtre, hein, au-delà des évolutions économiques auxquelles on n'échappe pas. Hein. Il faut que l'agriculture, elle puisse vivre de son travail. Si elle ne peut pas vivre de son travail, ça sera la destruction des paysages. Ça, c'est clair. Hein. C'est une donnée fondamentale avec, j'espère, les aides, les subventions de l'Europe. Mais quand vous pensez qu'on a monté des MAE, des MAEC, hein, depuis des années, et que les agriculteurs attendent depuis plus de 2 ans le paiement de ces MAE, bon, c'est pas possible.
Tout ça parce que. Hein, et c'est un problème franco-français.
Oui, en plus, oui. Alors contrairement à ce qu'on dit, on répète, ah, je suis la faute à Bruxelles, c'est la faute à Bruxelles. Bon, c'est un problème, d'abord, si j'ai bien compris, d'ordinateur, etc., hein, entre le ministère de l'Agriculture et les régions, et on n'a pas prévu que tout ça devait se coordonner. Quoi. Mais vous êtes quand même mal à l'aise vis-à-vis des paysans auxquels vous les avez incités, vous avez aidé à monter les dossiers, et que 2 ans, 3 ans après, ils n'ont tout dit pas perçu la somme qu'ils auraient dû qu'ils attendent. Voilà, allez.